Boomerang avec le romancier Michel Bussy. C'est parti. Est-ce que vous connaissez Henri de Bornier ? Oui, non, non, oui, non. C'est un dramaturge pourtant qui a fait fureur au XIXe siècle, qui a été préféré à Zola pour entrer à l'Académie française et qui a marqué la littérature, l'histoire, la mythologie de notre pays pour un seul vers, comme le notait Guy de Maupassant. Un alexandrin tiré de sa pièce La fille de Roland. Tout homme a deux pays, le sien et puis la France. Cette citation, on l'a prêtée à plein de gens, à commencer par Thomas Jefferson, paix à son âme. Si vous la cherchez, la citation, pas évident que vous la retrouviez son origine, qui est bel et bien en fait d'Henri de Bornier dans La fille de Roland, ce drame romantique de 1875 qui est si long, si obscur, si ardu qu'on ne le joue plus. Pourtant ce vers, c'est une pierre angulaire du grand récit national qui fait de la France une terre d'accueil. Et quand on se replonge dans la pièce, on se rend compte que c'est pas une affirmation mais un vœu. Toute sa beauté d'ailleurs est dans le vœu, le souhait, le rêve. Quand le héros romantique, qui n'est autre que Charlemagne dans la pièce, dans une fanfare de clairon au cœur du troisième acte, s'exclame « France, je lirai ta gloire ou tes revers ». Ta gloire, ô puisse-t-elle aux époques prochaines croître en s'affermissant comme croissent les chênes, offrir l'abri superbe et l'ombre de son front, nation maternelle aux peuples qui naîtront, afin qu'on dise un jour, selon mon espérance, tout homme a deux pays, le sien et puis la France.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel regard mon invité d'aujourd'hui porte-t-il sur ce grand récit de l'accueil qui fait notre pays depuis Code Lupin, il y a un peu plus de 10 ans, Un avion sans aile où le temps est assassin. Il enchaîne les succès en librairie. Dans son nouveau roman, On l'a trouvé plutôt joli, qui a paru le mois dernier, il interroge la figure du réfugié à travers une malédiction familiale teintée de vengeance, d'abus, de corruption. Bonjour Michel Bussy.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, se peut-il que la France ait cessé d'être envisagée comme une terre d'accueil?
Oui, je crois que c'est le cas. Je crois qu'au XIXe siècle, qui correspond à la citation, la France était la grande terre d'accueil d'Europe, au moins. Les Français allaient peu à l'étranger, s'expatriaient très peu, mais par contre, ont accueilli évidemment toute une série de nations européennes et africaines. Et puis aujourd'hui, les choses se sont un peu inversées, évidemment. L'Allemagne a accueilli beaucoup plus d'étrangers que nous, même la péninsule ibérique aussi. C'est aussi lié à la démographie. Quand la France était un pays qui vieillissait, elle accueillait beaucoup d'étrangers. C'était le cas du XIXe siècle. Et maintenant qu'elle fait plutôt plus d'enfants que ses voisins, elle a tendance à être un petit peu plus frileuse sur l'accueil.
Mais pas seulement, parce que c'est une question qui occupe une place centrale dans votre nouveau roman. De quoi ça témoigne? Et là, c'est autant aux citoyens qu'à l'écrivain que je m'adresse. De quel engagement, de quelle conscience, Michel Bussy?
Ça témoigne qu'effectivement, la France a quand même une cote d'amour dans le monde assez forte. En particulier dans mon roman, j'interroge l'Afrique francophone, où même si le français régresse, il reste parlé. Notamment, c'est la langue des journaux, c'est la langue à la télévision, c'est la langue de l'école.
Oui.
Et c'est vrai que à la fois cet amour de la France qu'ont un certain nombre d'Africains, d'Afrique noire notamment, et cette défiance, parce que c'est difficile d'avoir des visas, c'est difficile d'aller voir sa famille, c'est difficile leur groupement familial, c'est difficile même simplement d'aller visiter en France et étudier en France, et bien c'est vrai qu'il y a une sorte de défiance, et moi j'ai... En tant qu'universitaire, j'ai beaucoup de collègues africains qui regrettent ça, qui disent que c'est difficile maintenant, ne serait-ce même que de communiquer, d'étudier. Et parfois même, ces pays peuvent se tourner vers d'autres pays, plus anglophones ou plus arabophones, par exemple.
Mais ça dit aussi quelque chose, dites-moi si je me trompe, de votre conception de la littérature. Vous qui êtes lu par des millions de gens, derrière l'aspect volontairement divertissant de vos écrits, qu'est-ce que vous espérez provoquer chez le lecteur?
C'est clair que je pense qu'il y a une tradition en France du grand roman humaniste, de Zola à Hugo, par exemple, pour en citer quelques-uns, et sans évidemment me comparer à eux, j'aime bien cette idée qu'on peut faire des grands romans populaires, au sens où ce sont des romans qu'on va trouver en tête de gondole et que n'importe qui va pouvoir lire assez facilement.
Dont la fonction serait aussi une prise de conscience.
Oui, dont la fonction peut être une fonction également citoyenne ou simplement empathique par rapport à des gens dont on parle peu. Alors, on est dans une période où il y a beaucoup de feel-good, comme on dit, c'est-à-dire que les films, les romans qui se vendent sont des feel-good, mais je pense qu'on peut aussi faire du feel-good, c'est-à-dire des romans de divertissement, tout en parlant de choses graves et aussi de gens dont on parle peu, qui sont un peu dans les angles morts parfois de la littérature.
Quand vous vous présentez, pardon Michel Bussy, vous n'hésitez jamais à dire que vous êtes un auteur de romans populaires. Qu'est-ce que c'est pour vous le roman populaire, expression qui est parfois chargée de sous-entendus?
Bah, le roman populaire, moi, c'est par exemple dans mes titres, souvent des titres de chansons, et c'est facile de faire la comparaison entre la chanson populaire et la littérature populaire. Je pense que peu de gens critiquent la chanson populaire, qui est un peu différente de la variété. C'est-à-dire que la chanson populaire, c'est une chanson qui rentre dans les têtes, qui parle à toutes les générations, à toutes les classes sociales. Bah, pour moi, le roman populaire, c'est simplement ça. C'est un roman qui ne s'adresse pas à une classe sociale particulière, à une génération particulière. Moi, j'adore dans les salons que les grands-mères, les mères et les filles viennent ensemble lire mes romans.
Mais ça, c'est le rêve de tout roman. D'être lu par tout le monde. Comment on fait pour devenir un auteur de romans populaires ?
Ah, je ne suis pas sûr que ce soit le rêve de tous les romanciers, parce que, par exemple, si je prends La Trouvée plutôt jolie, qui est sur le thème des migrants, je ne suis pas le premier à écrire sur les migrants, mais je pense que je le fais d'une façon particulière qui, ouvertement, prend une dimension romanesque, prend une dimension divertissante, tout en essayant de garder la gravité du sujet. Et c'est vrai que d'autres auteurs vont soit être directement dans des formules plus thrillers, ou au contraire dans des formules plus réalistes, qui nécessairement vont peut-être exclure un certain nombre de lecteurs qui n'auront pas envie de lire quelque chose de trop noir, de trop dur, de trop complexe, alors que volontairement j'essaye d'écrire de façon simple et avec ce qu'on appelle des cliffhangers, avec toute une série de techniques qui font qu'on accroche le lecteur.
C'est-à-dire des retournements de situation, du suspense.
Voilà, ouais. des choses alors que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas je sais que par nature les lecteurs, et moi le premier, j'adore effectivement quand je sens que l'écrivain me prend par la main pour ne plus me lâcher, et en faisant ça, effectivement, ça lui permet d'être un peu pédagogique et de faire passer certains messages, certaines réflexions, certaines émotions.
Il s'agit aussi peut-être de ne pas se prendre pour un écrivain. Qu'est-ce que ça revêt, cette expression, se prendre pour un écrivain, pour vous?
Je crois que c'est vraiment une forme d'humilité, c'est-à-dire que moi je me suis non seulement jamais pris pour un écrivain, mais j'ai jamais cru déjà que je le deviendrais, et je suis pas sûr de l'être encore. Et ce qui est formidable, c'est que ce sont les lecteurs, ou les autres qui vous disent que vous êtes un écrivain. Moi, chaque fois que je vais écrire un nouveau roman, je me dis je vais me planter, c'est fini,
mais
je vais plus en vendre.
Il a bien fallu que vous preniez à un moment donné pour un écrivain, puisque vous avez écrit ces textes, sinon vous n'auriez jamais rien écrit. Michel Bussy, qu'est-ce qui vous a mis peut-être le pied à l'étrier? Qu'est-ce qui vous a dit écrivons?
Moi, je crois qu'il y a toujours deux voix. Moi, il y a deux petites voix. Il y a une petite voix qui me disait « tu seras jamais écrivain, c'est pas pour toi ». Voilà, c'est d'autres personnes. Et puis une autre voix qui me dit « mais si, il faut que tu écrives, t'as tes idées, t'as tes histoires dans la tête, il faut qu'elles existent ». Et ces deux voix contradictoires ont lutté. Puis à un moment donné, j'ai laissé gagner la voix qui me disait « écris quand même un roman, tu verras bien ». Et comme des millions de gens d'ailleurs qui ont un roman, un manuscrit chez eux. Et puis la chance a fait que ce roman a fini par fonctionner et s'imposer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ces deux voix, cette idée que pourquoi soit, alors qu'il y a des millions de gens qui aimeraient écrire, et d'un autre côté, il y a quand même cette voix pernicieuse qui vous dit « non, mais toi, ça va marcher ».
Il faut dire quand même, Michel, que vous avez d'autres activités, peu de gens le savent, mais vous êtes d'abord géographe. En quoi est-ce que votre discipline imprègne votre écriture, à votre avis ?
Alors, sur le dernier roman, on l'a trouvé plutôt joli, beaucoup, c'est clair. D'ailleurs, ce roman est dédicacé aux géographes, qu'on entend peu dans les médias, d'ailleurs, les géographes, alors que c'est vraiment une discipline très ancrée sur le monde. Et je pense que ça m'est utile, notamment parce que c'est une discipline qui est vraiment très connectée au monde. On dit souvent que c'est la discipline des sciences sociales la plus carrefour. C'est-à-dire que les géographes travaillent avec les politistes, avec les historiens, avec les sociologues, avec les psychologues. Et donc, c'est vraiment la discipline carrefour. On entre par le territoire. Et à partir de pour comprendre un territoire, que ce soit la France, le monde, Paris ou une rue, eh bien, on a besoin de toutes les autres disciplines.
Et c'est vrai qu'on le ressent par le souci de la description dans vos romans, mais aussi par l'articulation des différents espaces de votre livre. En quoi est-ce qu'une bonne histoire pour vous, ça passe d'abord par l'ancrage d'un personnage dans un lieu, dans un territoire ?
Parce que je crois que c'est peut-être plus malin de présenter un personnage simplement le décrivant et de décrire l'endroit où il habite, où il va travailler, ce qu'il fait le matin, quelle rue il emprunte, plutôt que simplement qu'un narrateur omniscient simplement vous dise ce qu'il a dans la tête et comment fonctionne son cerveau. Je pense que le montrer, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on fait chacun quand on est à la terrasse d'un café et qu'on regarde les gens et qu'on se pose la question, tiens, comment est-il habillé ?
C'est aussi quelque chose de ce qu'on est, déterminé aussi par un territoire.
Oui, c'est ça. Mais ça laisse aussi une part de mystère, c'est-à-dire que on regarde quelqu'un de la façon dont il habite sans savoir tout à fait ce qu'il a dans la tête. Et donc, il y a des choses qu'on montre par l'endroit où on habite, ce qui ne sont pas forcément ce que l'on est. Donc, je trouve que pour le lecteur, c'est toujours un petit peu plus ambigu d'entrer par le territoire et la façon dont on habite que simplement d'entrer directement dans le cerveau et la psychologie des héros d'un roman.
Dans On l'a trouvé plutôt joli, votre nouveau roman, vous situez l'action de votre récit à Port-de-Bouc, une commune du sud de la France, un lieu, ça n'est jamais neutre, Michel Bussy. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette région? Quel potentiel romanesque? Quel territoire, en fait, de roman?
Ouais, souvent, je fais un casting en géographe, c'est-à-dire j'invente mon histoire et après, j'essaye de trouver quel sera le lieu idéal pour ce roman. Donc là, j'ai regardé un peu partout. Il fallait que ce soit au bord de la Méditerranée. Et du coup, j'ai trouvé ce lieu, cette zone urbaine sensible qui s'appelle les Aigues Douces à Port-de-Boux et qui est un lieu très étonnant, très paradoxal, puisqu'on est à la fois à Port-de-Boux, qui est vraiment une commune industrielle au bord de l'étang de Berre, mais avec cette zone urbaine sensible qui est face à la mer, face à la Méditerranée. On a une vue superbe sur la mer, tout en étant relativement coupé du reste de Port-de-Boux, parce que c'est une espèce de presqu'île qui s'avance comme ça dans la Méditerranée, avec un port industriel. Donc, il y avait les deux côtés. On était dans un lieu qui pouvait être paradisiaque, tout en étant dans une zone urbaine sensible, avec évidemment son lot de dégradation et d'exclusion.
Vous dites, j'ai une histoire, je cherche un lieu, mais est-ce qu'il vous arrive, quand vous traversez un lieu, de penser immédiatement aux histoires que vous pourriez y raconter ?
Ouais, ça m'arrive aussi, mais de moins en moins souvent. C'est vrai qu'au début, ça fonctionnait comme ça. Par exemple, j'ai écrit un roman qui se passe sur l'île de La Réunion. J'étais à La Réunion et le roman est né en me promenant sur cette île de La Réunion. Aujourd'hui, c'est plus les histoires qui naissent et après,
là,
je recherche ces
Michel,
lieux.
Michel, on est dans la maison de la radio, ce décor rouge. Quelle sombre et terrible histoire a germé dans votre esprit lorsque vous êtes entré dans ce territoire?
Ouais, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est vrai que maintenant, c'est vrai que j'ai quand même mes histoires et ce que j'adore en tant que romancier, c'est une fois que j'ai une histoire, c'est de me balader dans un lieu et de me dire c'est là que va se dérouler, c'est là que sera la maison de mon héroïne, c'est là que je vais mettre le cadavre. Et c'est vrai que ça c'est assez bluffant, notamment j'ai écrit un fait noir qui se passait à Giverny, et c'est vrai qu'aujourd'hui un peu par hasard, j'ai disposé mon histoire dans Giverny, et aujourd'hui il y a même des tours opérateurs, enfin en tout cas des balades dans Giverny autour d'un fait noir, et c'est amusant de te dire tiens que le lavoir désormais de Giverny, c'est pour beaucoup de gens l'endroit où démarre le roman d'un fait noir.
Moi je suis sûr qu'il y aura un meurtre dans la maison de la radio, dans un roman de Michel Bussy. Celle qui en connaît de sales histoires sur cette radio, vous la connaissez tous, c'est la culture et son actualité faite de commérages, de ragots, de rumeurs. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 28 novembre?
Bonjour à tous, je suis au Bangladesh. J'ai pas l'habitude de vous solliciter pour ce genre de choses, mais je suis venu, j'ai vu, je vous montre, soyez avec nous.
Depuis ce matin, 7h, le comédien Omar Sy et l'organisation humanitaire Love Army de Jérôme Jarre ont lancé un live stream de 48 heures pour venir en aide aux Rohingyas. L'objectif, lever des fonds pour aider cette minorité musulmane victime d'épuration ethnique en Birmanie, dont près d'1 million de ressortissants ont fui vers le Bangladesh voisin et vivent dans un camp de réfugiés géant. Ils ont besoin du monde entier. Ça commence par nous. Ça commence à bouger pour Bourges. L'édition 2018 du Printemps de Bourges commence doucement à se dessiner. En exclu ce matin, on peut vous annoncer que le phénomène du rap belge Damso, qui était notre invité début novembre, viendra faire du sale sur la scène berrichonne. Il y aura aussi l'inénarrable Véronique Sanson, les jumelles Groovy d'IBI, l'insolent Aurel San et le pape techno Laurent Garnier du lourd. Alors, faut pas rigoler avec Michel Troisgros. Le français vient d'être élu chef de l'année par un collège de 552 étoilés du monde entier. Auréolé de 3 étoiles depuis 1968 au fourneau du Bois sans feuilles à Ouche, Michel Troisgros, héritier d'une grande lignée de restaurateurs, s'est imposé comme le chantre d'une cuisine inspirée autant par la nature que par l'art contemporain dont il est un passionné. Bien joué, Moret.
1, 3, 4
Deux gars, c'est mieux qu'un seul. À l'occasion du centenaire de la mort d'Edgar Degas, le musée d'Orsay propose une exposition inédite consacrée aux relations qu'entretenait le peintre et l'auteur Paul Valéry. Articulé autour du livre Degas danse dessin, écrit par Valéry en 1936, l'événement fait dialoguer les œuvres de l'artiste et les carnets de l'écrivain et explore l'art du mouvement, notamment de la danse. Et l'actualité, c'est aussi Michel Bussy, invité de Boomerang ce matin pour son nouveau roman. On la trouvait plutôt jolie, l'histoire, on le disait, de Lélie, une réfugiée malienne dans la tourmente de la recherche d'un appartement plus grand pour sa famille jusqu'au moment où un meurtre est commis et où le secret qu'elle garde se révèle peu à peu. On parlait tout à l'heure de l'ancrage géographique de vos livres, Michel. Il se trouve que la plupart de vos autres romans étaient situés en Normandie. C'est pas le cas pour celui-ci. Et en même temps, entre nous, est-ce que ce livre n'aurait pas pu se situer en Normandie ?
Oui, bien sûr. En plus, en Normandie, on a Dieppe, on a du passage au Transmanche, donc on n'a pas la jungle de Calais. Mais enfin, il y a eu effectivement aussi bien au Havre qu'à Dieppe, qu'à Ouistreham. Dans tous les endroits, il y a du Transmanche, des réfugiés qui tentent aussi d'aller vers l'Angleterre. Donc, ça aurait pu se passer là, mais c'est vrai que symboliquement la Méditerranée. Enfin, mon roman est né autour de la Méditerranée, de ce rapport Nord-Sud, et évidemment, il y avait toute cette histoire de la Méditerranée, à la fois dramatique, mais aussi de ce trait d'union. Et dès le départ, évidemment, mon roman devait se passer face à la Méditerranée.
Je vous pose la question parce que aujourd'hui, tout se ressemble, et votre livre en témoigne dès les premières pages. Les zones industrielles, les centres commerciaux regroupent les mêmes enseignes partout dans le monde. Qu'est-ce qui distingue une zone commerciale de la banlieue parisienne de celle de Port-de-Boux ou de Rouen?
Pas grand-chose, et d'ailleurs, ça n'en distingue pas forcément non plus d'autres zones commerciales qu'on va retrouver à Tokyo ou à New York, par exemple. Et c'est vrai que ce roman témoignait aussi d'un monde, on va dire globalisé, oui, comme disent les géographes, et d'un autre côté, de territoires qui sont de plus fermés. C'est ça le grand paradoxe de notre monde d'aujourd'hui, de ce que dit aussi ce roman, hein, c'est que voilà, c'est un monde de plus en plus ouvert, qui n'a jamais été aussi ouvert, où tout circule, la culture, l'argent, etc. Et où ce qui ne circule plus aujourd'hui, ce sont les hommes, beaucoup moins qu'il y a un siècle, et beaucoup moins qu'au cours de l'histoire. Je cite Stefan Zweig à un moment donné dans mon roman, qui dit voilà, il y a une rupture en gros à la Première Guerre mondiale, où avant les gens circulaient librement où ils voulaient, aussi longtemps qu'ils voulaient, comme ils voulaient, et après on a inventé les passeports et le monde s'est fermé, les nations du monde se sont fermées, se sont barricadées.
Oui, ce que vous dites, c'est dans un monde.
Il y a sans doute, voilà, et c'est assez récent, c'est moins de 100 ans finalement, cette histoire du monde qui où les nations se ferment.
Là où c'est passionnant, c'est que vous dites que les frontières n'ont pas d'avenir. En fait, le livre ne parle que de ça. Dans un monde globalisé, il n'y a pas de place pour
Moi, je crois, et j'ai lu beaucoup notamment de chercheurs en sciences sociales qui montraient que dès qu'on crée une frontière, c'est un peu comme quand on interdit l'alcool, etc., on crée la contrebande et on crée les passeurs quelque part. Et donc, certains ont montré que même quand on ouvrait des frontières, c'était la meilleure façon parfois de lutter contre l'immigration illégale, parce que finalement, les gens, globalement, n'ont pas forcément envie en permanence de risquer leur vie pour franchir des frontières. Donc, ouvrir, c'est une solution. Et donc, effectivement, on n'a jamais sans doute eu autant de murs aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité.
Y compris des parois de verre, en fait, à travers lesquelles on voit, mais qui sont pour beaucoup infranchissables.
Voilà, donc, et des écrans, et c'est vraiment le paradoxe du monde. Et moi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas empêcher les gens de poursuivre leurs rêves, on ne peut pas empêcher les gens de passer à travers les mailles d'un filet. Et donc, nécessairement, un jeune adulte qui naît quelque part pourra toujours avoir envie d'aller en France, en Angleterre ou en Amérique, et on ne pourra jamais empêcher ce rêve-là. Et surtout, si ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour leur rêve ou pour leur destin ou pour leurs enfants. Et ça, on peut mettre toutes les frontières militarisées du monde, on ne pourra pas endiguer ce phénomène, d'autant plus que c'est un phénomène où on voit bien que d'un point de vue démographique, les écarts vont continuer de se creuser. Enfin.
Et pour abattre les frontières mentales, puisqu'il en est aussi question, comment on fait, Michel Bussy?
C'est plus compliqué, peut-être. J'espère que certains romans, et quand même, il y a beaucoup de romanciers, de cinéastes qui se saisissent de cette question des migrants pour montrer qu'effectivement, on n'est pas obligé de la traiter que d'une façon politique et en termes de religion, en termes de terrorisme, etc., mais qu'on peut aussi la traiter de façon purement humaniste. Et ce que j'ai vraiment voulu dans ce roman, c'est pas élever le débat, mais montrer qu'on est face à quelque chose qui face à l'histoire, pose une vraie question. C'est vrai qu'on est dans une Europe qui vieillit, on a des pays d'Afrique qui vont rajeunir et continuer de se rajeunir. On n'arrive plus à payer nos retraites en Europe, et les pays africains n'arriveront plus à payer l'éducation de leurs enfants. À un moment donné, il faut aussi regarder ça avec un peu de hauteur et se dire que voilà, on peut pas avoir des continents comme ça qui continuent de dériver en s'éloignant, et qu'il faudra forcément réinventer quelque chose qui permette plus de passage.
Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, vous, aujourd'hui?
Moi, je pense que ce qui donne de l'espoir, c'est justement qu'il y a beaucoup de prise de conscience humaniste au quotidien. C'est-à-dire, je pense que même, derrière un de mes personnages dans ce roman, c'est-à-dire même les gens qui vont être très... se désintéresser de cette question des immigrés, voire même qui peuvent voter aux extrêmes, etc. S'ils se retrouvent confrontés à quelqu'un qui se noie face à eux, s'ils se retrouvent à discuter avec un type qui est venu de Syrie ou de Libye et qui a traversé pour arriver là, eh bien, il aura forcément cette empathie en se disant « Waouh, le mec, courageux !» Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, humainement, on peut pas rester insensible à cela. Par contre, il y a effectivement beaucoup de barrières mentales et politiques, et de nous faire croire, tout simplement, que on ne pourrait pas, cette phrase qui m'horripile et que pourtant les hommes politiques révèlent, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Cette phrase horrible et qui est un contresens absolu, puisque la misère du monde, elle est accueillie par les pays qui sont les plus miséreux du monde. Oui. On le sait bien, l'Europe, la France ne prennent qu'une toute petite part de cette misère du monde, bien moins que les pays du Sud. Donc quelque part, je pense que c'est cette barrière mentale-là qu'il faut faire tomber.
On va continuer à parler d'humanisme, d'empathie, d'émotion, de littérature aussi, juste après cette si belle Lily qui donne son nom au personnage principal de votre roman, Michel Buisson l'a dit, et que chantait Pierre Perret en 1977. Vous êtes sur France Inter. Vous écoutez Boomerang.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Là, vous savez, ce visage qu'on connaît bien, celui du guide de haute montagne, celui du prof d'escalade, de l'ornithologue baroudeur avec ses grands yeux émerveillés, un brin dans le coltard, quelques rides ensoleillées, chemise orange citrouille, à ce damné Michel Buisson, le romancier invité de Boomerang ce matin pour son livre « On l'a trouvé plutôt joli », un livre qu'il est difficile de résumer sans en révéler les rouages, ce qu'on ne fera pas, mais dans lequel il est aussi question, et ça n'a pas manqué de me surprendre, de chouette, l'animal. Ce qui n'en fait pas pour autant un hommage à Harry Potter, pourquoi avoir placé votre livre sous le signe de cet animal, la chouette? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Michel?
Alors c'est un roman, dès que j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, il va alterner des jours et des nuits, il y a 4 jours et 3 nuits, et même dans le roman, on s'est amusé à mettre des petits soleils et des petites lunes, et je me suis aperçu que ça s'équilibrait assez bien, et donc parce que mon héroïne, Lily, alors à la fois elle vient d'Afrique, donc le soleil est très important, sans révéler, elle va avoir un problème de vue, donc elle collectionne les lunettes de soleil, etc., et donc il y a tout ça. Et puis, il y a aussi l'idée qu'elle vit aussi un peu à l'envers de la ville, puisqu'elle fait les ménages, donc elle se lève très tôt le matin, ou elle travaille et elle nettoie le soir. Donc, il y avait ce côté oiseau de nuit qui vit à l'envers. Et puis, évidemment, il y a des meurtres, et ces meurtres sont commis la nuit. Évidemment, la chouette, c'est La sagesse, c'est l'intelligence, mais c'est aussi évidemment l'animal de la sorcière. Et c'est l'animal qui tue la nuit, puisqu'elle voit la nuit, alors que les autres animaux, ses proies, elles ne voient pas la nuit. Donc, du coup, l'animal qui tue la nuit, et comme il y a des meurtres commis le soir et la nuit, forcément se demande qui est cette chouette, qui est cette tueuse.
Et c'est peut-être vous, vous écrivez la nuit, vous ?
Oui, je suis plutôt.
Ah ben voilà, on l'a trouvé dans Boomerang, la solution. En même temps, la nuit, c'est toujours ce moment où l'imagination est particulièrement fertile, un moment propice pour raconter des histoires. Quand est-ce qu'elles vous viennent à vous, vos histoires ?
C'est toujours des étincelles. Alors c'est très curieux. C'est toujours une petite étincelle, un bout de fil, et après je tire sur le fil. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que très souvent les histoires vont mettre une heure, deux heures, allez, une journée à venir. Et après, on va passer un millier d'heures à écrire un roman. Mais le moment où on sait qu'on tient une histoire qui fera un roman, ça dure pas plus de 2-3 heures. Quoi.
Parce que les livres, Michel Buissy, ont leur importance dans ce roman, on l'a trouvé plutôt joli. Votre héroïne Lélie, elle dévore les livres et voilà ce que vous écrivez. Chaque matin, elle relisait la première histoire que je lui avais rapportée, le 11e des 12 travaux d'Hercule, les fruits d'or des jardins des Hespérides. Elle s'était passionnée pour le char solaire emprunté par Hercule, ce char d'Hélios qui filait d'est en ouest jusqu'au bout du monde connu, tiré par 10 fabuleux chevaux, Actéon, le rayon de l'aube, Astérope qui allume les premières étoiles. Les contes contiennent toujours une part de vérité. Alors Michel Buissy, qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans les contes ?
Ah ouais, j'adore les contes depuis le début. D'ailleurs, j'en ai écrit. C'est même les premières choses que j'ai écrites quand j'étais ado.
Vous diriez que les histoires vous ont plus appris de choses que la vie ?
Ah oui, sans doute. Et puis, dans La Trouvée plutôt jolie, par exemple, c'est vrai que je voulais vraiment que cette histoire soit aussi un conte. C'est-à-dire qu'évidemment, elle traite de la question des migrants, mais sous une forme un peu onirique, j'espère un peu poétique, avec cette dimension de conte. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'a fait ma singularité dans l'univers du polar, c'est que beaucoup de mes romans sont des polars, mais ont aussi une dimension de conte, comme Nymphée à Noir, comme Maman à tort, où il y a des contes pour enfants. Donc très souvent, il y a cette dimension de conte. D'ailleurs, la plupart des contes ont souvent une dimension très peut-être pas policière, mais en tout cas très très meurtrière, avec des ogres, avec des sorcières, avec des choses assez terribles. Et donc j'aime bien cette dimension où il était une fois, et après on démarre dans quelque chose qui dit beaucoup de choses sur la vie, mais on est dans une part d'imaginaire.
C'est quelque chose qui s'apprend, l'écriture, pour vous ?
Non, je crois pas. Je crois qu'on peut se désinhiber parce que c'est compliqué de se dire moi aussi je peux écrire, mais je pense pas que ça s'apprend. Moi j'ai beaucoup enseigné aussi à des étudiants qui commençaient à écrire, et le travail c'est de leur dire vous pouvez aussi écrire. Mais après il y avait des gens qui étaient nuls en français et qui m'écrivaient des choses absolument fabuleuses avec leurs mots sans savoir que même savaient écrire. Je disais mais c'est incroyable ce que vous avez écrit. Tout le monde peut écrire une lettre d'amour, tout le monde peut écrire une lettre d'insulte. Enfin voilà, c'est suffit que ça parte du cœur quoi.
Je me vois pas du tout comme ça. Je sais comme vous me demandez comment je vois les gens qui me regardent. Je les vois pas. Téléspectateurs, hein. J'ignore comment vous me voyez, si ça vous intéresse. Ou qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis ? Personnellement, je suis très poli. Je m'en moque éperdument. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Le poète, ça court les rues, et tout le monde court les rues. C'est-à-dire, un type qui écrit des poèmes, des fois c'est beaucoup moins bien qu'un type qui est saoul comme une vache et qui dans la rue des choses extraordinaires. Si vous êtes poète populaire, ou vous êtes le grand poète, ou petit poète, c'est toujours la grandeur. Hein. Alors, la grandeur. Hein.
Jacques Prévert, au milieu des années 60, Michel Buissy, c'est lui dont vous avez choisi de nous faire entendre la voix ce matin pour terminer cette émission. Pourquoi lui ?
Ça tombe bien, on parlait des contes, et évidemment, Prévert et les contes, c'est l'enfance aussi. Non, ce que j'aime beaucoup chez Prévert, c'est que c'est vraiment un grand dernier poète populaire. Et y a le poète, il y a celui qui a fait des paroles de chansons, il y a celui qui a fait des dialogues fabuleux de films. Et voilà, il y a quelque chose qui est une exigence, une science du verbe absolument magnifique, tout en étant particulièrement populaire, des écoles aux adultes qui retrouvent une part de leur enfance. Donc j'aime beaucoup cette idée qu'on peut avoir comme ça. Et puis il y a Prévert, c'est le réalisme poétique. Et s'il y a bien un courant artistique dans lequel je m'identifie, c'est bien ce réalisme poétique.
Alors vous avez entendu, c'est intéressant, dans cette archive, il parle de la façon dont les gens le perçoivent et il dit que ça n'a pas d'importance pour lui. Le regard des autres, est-ce qu'il compte pour vous ?
Non, mais je me reconnais bien dans tout ça, c'est-à-dire que c'est un écrivain doit rester caché, enfin doit pas faire de la télé, éventuellement de la radio, on va pas.
Éventuellement.
Voilà. Mais,
le matin.
Voilà. Donc non, je crois vraiment que ce qui est Enfin, quand on est écrivain et qu'on a comme ça des histoires et des contes qui courent dans la tête, il faut rester chez soi, les écrire. Et l'idéal serait presque les livres et les contes se vendent sans même que l'écrivain puisse avoir à sortir de chez lui.
C'est vrai que c'est possible encore ça aujourd'hui?
Bah non, c'est plus possible aujourd'hui parce qu'il faut bien aller voir les lecteurs et puis parler de ses livres. Ça fait partie du jeu. Mais dans l'idéal, finalement, ça serait que l'écrivain n'est quasiment pas à apparaître.
Je dois dire quand même que vous parlez très bien des vôtres. Merci infiniment, Michel Bussy, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle qu'on l'a trouvé plutôt joli. Votre dernier livre est donc publié aux Presses de la Cité. Et sans mauvais jeu de mots, je dirais que c'est chouette. Aussi chouette que le podcast de Boomerang et l'Instant M de Sonia De Villers qu'on retrouve juste après ça.
Venice an alien with extra ability. Pushed time to next century. Somewhere his craft lost. Guess where he stopped for petrol. Wishing Americana happy. Wishing Americana free. Ben's an alien passing by. Wishing everyone be back home. About shooting stars and spoke like a true bard. Sit and play with songs. Music is not marked as fierce toy. Tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana.
Jupiter, Benjamin, Clémentine, Jupiter hein, sur France Inter. Et c'est l'heure de l'Instant M, l'Instant Média avec Sonia.
Jupiter.
Jupiter.
Salut Augustin, et à demain.
Jupiter.